Radio-Canada, audio.
Il y a une dizaine d'années, un peu à bout du type de pression qui venait avec mes jobs créatifs, je me suis payé un des fantasmes clichés de quelqu'un au bord du burn-out. J'ai tout lâché pour aller travailler dans une bibliothèque. Pour me rendre compte assez vite que je prenais aussi cette job-là trop à cœur et que ça minait mon moral exactement de la même façon. Comme quoi, c'était pas tant un problème de l'employeur que j'avais que de l'employé que j'étais. Bref, le move aurait pas changé grand-chose dans ma vie si ce n'était du fait que c'est là que j'ai rencontré Nicole.
On nous présente les nouveaux et toi, t'arrives là derrière, par derrière une petite colonne et je te trouve très jolie. Du propre et du joli. C'est ce que je me suis dit. Donc, plus tard,
propre, on y reviendra.
Mais... propre, on y reviendra, effectivement. Toujours que, pensant que t'es propre et joli, on monte dans une salle de réunion pour une réunion d'équipe et dans le courant de la réunion, tu poses une question et au milieu de ta question, tu bloques, mais vraiment. Mmh. Pas un son pendant un bon moment.
Tu finis par terminer ta question. Et moi, je suis assise en avant. Puis quand tu as fini de parler, je me revire pour voir c'est qui ça. Parce que j'étais curieuse de voir qui parlait. Puis j'étais impressionnée C'est comme si c'est d'une manière, c'est comme ton bégaiement qui me séduit. Mais attends, non, pas ton bégaiement. Ce que t'en fais, ce que t'en as fait. Le fait que t'exposes ta faille, t'sais, pour moi, c'était comme un gros no bullshit. Ce gars-là, il fait pas de bullshit. Fait que le fait que t'exposes ta faille, que tu te présentes telle quelle, ça, pour moi, c'était quelque chose qui était séduisant. L'espèce de qualité du guerrier, l'espèce de qualité du combattant.
OK, mais fallait que je pose cette question-là, si je voulais comprendre.
Sans offense, je pense que c'était même pas une question importante.
OK.
Mais ça t'aura servi à cueillir la fille.
Oui, voilà, ben c'est tout ce qui est important, je pense. Puis devant tes chums, devant ta famille, ça t'a jamais embarrassé? Ça t'a...
Ben non, parce que j'ai l'impression que qu'est-ce qu'ils voient? C'est la même chose que moi. C'est que tu te caches pas de cette faille-là. Tu te caches pas... C'est ça, je pense que...
Non. Mais c'est parce que je peux pas me cacher. Je le ferais. Je le ferais, mais
non,
je peux juste pas me cacher.
Tu pourrais éviter.
Oui, oui, non,
tu
c'est
pourrais
vrai.
Éviter, puis tu parles tout le temps. Pis ça, tu pourrais éviter, tu vois.
Bon, certaines langues sales vont dire que je suis juste bien tombé. Ben, à ces gens-là, je réponds que vous avez pas idée à quel point. Et je dis ça en toute vantardise. Parce que vanité bien ordonnée commence par soi-même. Comme Nicole vient de mettre l'emphase sur le fait que je suis pas tant fan de bullshit, elle me donne plus vraiment le choix d'avouer ceci. Dans mes gestes du dernier épisode de prendre soin de moi physiquement, le yoga, les trucs de respiration, et dans les techniques physiologiques de déblocage de la modification du bégaiement, il y a le désir sournois, très clair, inavoué, d'être... Oui, je viens de le faire. D'être fluide en bout de ligne. Depuis que j'ai un peu accepté le fait d'être bègue, je contourne le problème en sécrétant en secret le désir d'être un bègue qui bégaye plus. Bref, j'apprends pas vite. Le psychologique suit pas. Je pense que c'est ce que Anne voulait me passer comme message en disant qu'il fallait s'assurer de la base psychologique avant d'attaquer les thérapies motrices.
Je voulais savoir, est-ce que des fois, tu te parles seule? Dans la douche ou... Puis là, je parle à voix haute.
Des fois, je me force de le faire pour essayer de tester des choses.
OK, intéressant.
Mais ça fait pas partie de moi de jaser avec moi-même, non.
La raison pour laquelle je te demande ça, quand tu parles seul, ben t'as pas la pression de qu'est-ce que les autres vont penser, comment
ouais.
ça va sortir.
Je comprends.
Fait que ça peut être l'image de la plus petite des poupées russes. Donc, le bégaiement à sa plus simple expression.
C'est niaiseux, j'avais pas cliqué. Alors que je le dis moi-même dans le premier épisode. Si vous me surprenez présentement en train de ne pas bégayer ou de peu bégayer, c'est pour trois raisons. D'abord, vous n'êtes pas là. Prenez-le pas mal, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que, oui, je vous parle à vous spécifiquement, mais je n'ai pas à faire face en temps réel à la lecture de votre réaction par rapport à moi. Ce que Anne appelle la plus petite poupée russe, c'est comme je parle présentement. Ou pas tout à fait, parce qu'en ce moment, mon texte est écrit. En fait, c'est plus comme présentement. Présentement, je n'ai pas écrit mon texte, ce qui est plus dur pour moi de savoir quoi dire. Mais vous allez peut-être donc entendre c'est quoi le plus petit bégaiement que j'ai. Là, il faudrait que je parle un petit bout de temps quand même, parce que quand je suis seul comme ça, ben, je bégaye vraiment pas beaucoup. Ou plutôt, ça dépend des jours, encore une fois. Évidemment, c'est parce que là, je dois bégayer que je ne le ferai pas. Bon, ça marche pas. Bon, tant pis, faites-moi confiance. Quand je suis seul, ça ressemble quand même à ce que vous entendez présentement, mais avec quelques syllabes qui accrochent de temps en temps. Et de ce que je comprends, ce mini bégaiement-là va toujours rester avec moi. C'est physiologique. Et sincèrement, si c'est ça être bègue, ça me dérange pas. Si j'étais arrivé par moi-même à trouver comment vous parler comme je me parle tout seul, je me serais pas donné le trouble de faire ce balado-ci et on s'entend que vous seriez en train d'écouter un true crime en ce moment. Donc, comme j'arrive au constat que ma physiologie semble capable de presque pas bégayer quand l'absence de monde le laisse tranquille, la différence semble donc être essentiellement dans ma tête. Et si ça vous paraît soudainement comme une bonne nouvelle, c'est que vous connaissez pas ma tête. Ça pose la question existentielle suivante. Qu'est-ce qui fait que je suis pas tout seul quand je suis avec vous? C'est là où on tombe dans ce qui est pour moi le plus fascinant du bégaiement. L'incroyable labyrinthe des facteurs psychologiques. Parce que j'ai oublié de vous dire, en plus des facteurs physiologiques génétiques, il y a une autre prédisposition qui n'aide pas du tout.
Un autre facteur qui entre en jeu, ça serait le tempérament sensible. C'est sûr que si on est face à des réactions de la part de l'interlocuteur, c'est pas tout le monde qui va être affecté de la même façon par ça. Et ça, ça s'applique aux personnes qui bégaient ou aux personnes qui bégaient pas. Comment on absorbe le feedback de notre environnement?
Et comme un des motifs récurrents de ce balado, c'est ma propension à prendre mal certaines choses, ça faisait de moi et de ma génétique, à la base, un candidat vedette pour le bégaiement.
Donc, c'est vraiment le vécu émotif de la personne qui bégait qui crée le handicap et non pas les aspects visibles de la parole.
C'est un problème qui se crée à force d'essayer de le régler.
Oui, c'est bien dit.
Comment psychologiquement ça a commencé tout ça? On peut... OK. Imaginons un Michel en bas âge à qui on demande son nom. La génétique embarque et sa plus petite poupée russe le fait hésiter un peu. Devant la face des autres, à tort ou à raison, il croit comprendre que ce qui vient de se passer, c'est pas souhaitable. Les autres font pas ça. Mais le petit Michel est débrouillard. Il a trouvé des trucs dont Judith nous parle ici.
Par exemple, si je veux dire Judith, mon nom, là, je vais dire Judith. Là, je vais dire Judith. Ah, là, j'ai un release. J'ai eu un relâchement du bégaiement. T'as-tu vu que j'ai rajouté?
Le E.
Le E. Donc, ça, c'est... quelque chose de linguistique que je rajoute. Ah, tiens, j'ai un relâchement. Ah, OK, là, ça a marché. Mon bégaiement est sorti. Puis c'est ça qu'on veut, hein? Les gens qui bégaient, c'est l'affaire qu'ils veulent le plus. C'est de sortir du...
J'en témoigne.
Moment de bégaiement, tu sais, c'est ça. Et ça fonctionne un petit bout. Le E, Judith, OK. Puis après un certain temps, du renforcement intermittent, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Mais là, avec l'habituation, des fois, oups, on rajoute autre chose. Donc là, je m'appelle Judith. Lequel j'ai rajouté? Selon toi? Si je dis je m'appelle Judith. Si j'ai recommencé au début.
OK.
Je m'appelle. Okay. Je continue. Je m'appelle je m'appelle Judith.
Le mouvement physique.
C'est ça.
Ouais.
Fait que ça peut être justement de la tension qu'on rajoute pour sortir le fait de vouloir le sortir, le mot.
Et c'est cette accumulation de stratégies-là qui nous fait sortir de l'aspect procédural de la parole. On débarque de l'automatisme qu'a une personne fluide à parler. Parce qu'une personne non-bègue, à ce qu'on me dit, pense rarement au fait de parler. Elle parle. Alors que moi, dès qu'il commence à y avoir un enjeu, la question de l'exécution se pointe consciemment. Ce qui amène à une question bien connue. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là? Sur le plan psychologique, la réponse de Judith, Geneviève et Anne à cette question-là est venue sous la forme de deux thérapies. La TREB et l'ACT. Et je vous avertis tout de suite, je vais mélanger les deux.
En fait, TREB, là, premièrement, c'est thérapie de réduction de l'évitement ou désévitement du bégaiement. Donc, c'est de réduire l'évitement en lien avec le bégaiement. L'évitement en lien avec le bégaiement, ça peut être soit éviter des sons. Certains sons, des gens vont dire « Ah, le « k », c'est plus dur, le « k », c'est plus dur. » Éviter des mots, justement, changer les mots pour pas bégayer. Donc, on évite certains mots. On évite des situations. Je vais pas aller à tel endroit ou je vais ne pas voir telle personne. Donc, éviter des situations, des contextes. Et aussi, ça peut être un évitement du niveau d'avoir le rôle d'une personne qui bégaye.
Dans cette approche thérapeutique-là, il y a toute la notion de s'apprivoiser à s'identifier comme une personne qui bégaye, en fait. Parce que, ben le bégaiement est en toi, il est en moi, même s'il se manifeste pas toujours. Tu sais, d'être de plus en plus confortable avec l'idée d'être une personne qui bégaye. Comme pas que ça, tu sais, t'es plein d'autres affaires.
Non, je comprends.
Puis ça fait partie aussi du maillage de qui tu es comme humain sur cette terre, tu sais, de bégayer.
Puis ça peut être aussi l'évitement des émotions. Puis dans la trêve, les émotions sont vraiment mises de l'avant parce que souvent, ça explique certains patterns de bégaiement qui sont créés, surtout souvent à cause d'une lutte qui est là dès le départ, d'une peur de bégayer qui fait que là, ça s'enclenche avec plein de stratégies justement pour éviter, pour contourner, pour pas se montrer 100%.
En gros, la TREB propose de comprendre les peurs et retrouver les raisons qui sont derrière nos évitements pour ensuite les confronter graduellement. Quand je perds le contact visuel avec les personnes avec qui je parle, ça répond à quelle peur? Est-ce que j'essaie de me protéger de ce que je vais lire dans les yeux de l'autre? Est-ce que j'ai peur d'imposer à l'autre la panique que moi j'ai dans les yeux lors du bégaiement? Bref, c'est-tu de la honte? C'est-tu de l'altruisme mal placé? C'est pas clair. Alors, on essaie d'analyser ce qu'on ressent quand on le fait. On le remarque. Et on essaie, durant la semaine suivante, de provoquer les rencontres pour se mettre en danger. Le but étant que notre cerveau finisse par réaliser que ça nuit plus que ça aide, cette affaire-là. J'y crois. Et pour avoir essayé quelques premiers pas, je pense que je devrais me convertir à l'hindouisme parce que, vite de même, je prévois que ça me prenne au moins 3 vies pour y arriver.
C'est quelque chose de très... c'est une approche qui est à long terme. On change des choses profondément et ça reste après.
On va être amené à identifier qu'est-ce qui est important pour la personne en termes de valeur, c'est qui les personnes importantes, c'est quoi les actions que tu fais pour t'approcher de ça, c'est quoi les obstacles que tu rencontres quand tu veux t'approcher, qu'est-ce que tu ne veux pas penser ou ressentir, c'est quoi les actions que tu fais pour t'éloigner de ce que tu ne veux pas penser ou ressentir. Puisque l'évitement... Éviter de parler, c'est comme vraiment un comportement central dans le bégaiement, puis c'est souvent ça qui va générer du handicap. Bien, d'avoir ce cadre de référence-là avec la personne qui bégaye, ça va beaucoup aider à comprendre. Bien là, ce que je fais, là, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction ou je suis en train plutôt de répondre à mon besoin d'apaiser la souffrance? ACT, c'est Acceptance and Commitment Therapy, en français... thérapie d'acceptation et d'engagement.
Les plus vifs d'entre vous auront peut-être remarqué qu'on vient d'essayer de me passer le mot « acceptation » sans que je m'en rende compte. Je m'en suis rendu compte. Et si je suis encore loin du compte, alors qu'on est à l'avant-dernier épisode, sachez au moins que j'accepte maintenant la présence du mot « acceptation », ce qui est déjà pas mal. Quand Anne dit que souvent, en bégaiement, le handicap vient du fait de s'empêcher de parler, je suis heureux de constater que c'est pas tant mon cas, comme en témoignait ma copine dans l'intro. Et comme ça m'empêche rarement, voire jamais, de faire quelque chose, ça explique peut-être pourquoi j'ai jamais utilisé le mot « handicap » en parlant de moi. Mais cette thérapie-là peut quand même m'apprendre une chose ou deux. Je pense entre autres à une de mes ennemies de toujours, la rumination. Parce que non seulement il y a l'anticipation du bégaiement et le bégaiement lui-même, non seulement ça vient gâcher le passé et le présent de la parole, ça vient aussi s'insinuer dans l'après-bégaiement, sous forme de tapage dessus, la rumination.
Combien de temps tu penses que c'est correct de ruminer une performance? Combien de temps ça peut être constructif?
Ouais, jamais autant là, que moi, que le temps que je passe sur ça, c'est sûr et certain. Mm-hmm. Oui, parce que l'idée du retour, je suis très conscient que c'est de voir où ont été les erreurs pour mm-hmm. ensuite les améliorer. Puis ça, ben, après 5 minutes, tu devrais avoir fait le tour. T'sais?
Intéressant.
Et le travail à ce moment-là, dans la semaine qui suit, c'est de remarquer à chaque fois que je rumine, me donner 5 minutes pour apprendre de ce qui vient de se passer. Ce qui est plus pour la forme que pour quoi que ce soit d'autre, parce qu'on s'entendra qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre d'avoir bégayé en demandant la rangée des rallonges électriques au Canadian Tire, pour ensuite, après ces 5 minutes-là, lâcher prise ta boire. C'est correct. Arrête. Mon Dieu, je suis intense. Arrête. Arrête.
Puis là, après ça, c'est de se questionner sur, justement, dans la vie de tous les jours. Je sens ça, j'ai eu cette pensée-là. Attends un peu. Est-ce que c'est vrai? C'est-tu vrai que l'autre pense ça? Tu sais, les biais cognitifs sont forts. Hein? Quand on est anxieux ou quand, justement, on a des choses qu'on aime moins de nous, le cerveau humain va se souvenir des personnes, justement, qui renforcent ce qu'on a peur, ce dont on a peur ou ce dont on évite. Notre cerveau humain se souvient des menaces et c'est ça qui nous tourne en tête parce qu'il veut nous protéger.
Mais encore faut-il que la menace soit sérieuse. On s'entendra qu'à part si j'essaie d'avertir un ami qu'un piano est en train de lui tomber sa tête, dans lequel cas ce serait plutôt dommage de bégayer, mon cerveau, reptilien ou autre, devrait se tenir tranquille et me laisser simplement bégayer. Et au pire, avoir l'air fou, sachant que le ridicule peut même être lucratif dans le monde actuel.
Essayer de diminuer ce que je suis capable de contrôler, c'est-à-dire ma réactivité au bégaiement. Tu sais, fait là, il y a des techniques de pleine conscience, méditation, qui sonnent ésotériques, mais qui sont pas du tout, à mon avis. Que, tu sais, avoir un non-jugement sur ce qui arrive. Ah, ben, regardons, ça fait 3 secondes que j'essaie de dire bonjour, puis je suis pas capable. Ah, ben, regardons, la personne fronce les sourcils. Ah, mais tu sais, essayer de pas juger de ça, genre. Tout ça est neutre. J'ai le droit d'exister avec ce bégaiement-là maintenant.
L'autodéclaration, le self-disclosure en anglais, annoncer le bégaiement, parler du bégaiement ouvertement, ça peut, c'est très puissant comme outil.
Je dis, ça arrive souvent que je dis aux gens en passant, je suis bègue, donc ça se peut qu'il y a des mots que je répète. C'est, okay. Donc je brise la glace en disant ça. Moi, ça m'enlève ce fardeau-là de pas essayer de bégayer, etc.
OK, tu l'annonces.
Puis les gens, ben ils savent. Puis des fois, il y en a qui applaudissent ça, le fait que j'ai dit que j'étais bègue, etc. You know.
Déjà, le fait de verbaliser l'affaire au départ, ben tu sais, ça désamorce un peu quelque chose. Là.
Et dans la trib, ce qu'on peut faire rendu à un certain point, là, quand tout le monde est à l'aise puis qu'on a essayé quand même de sortir de sa zone de confort puis les gens ont un certain vécu là, dans la trib, ben ça serait OK. Là, on appelle cette semaine, tous, on appelle tous à quelque part et le but, c'est de se faire accrocher au nez. Donc, on fait du bégaiement volontaire, peu importe. Vrai bégaiement, faux bégaiement. Tout le monde le fait, les intervenantes aussi. On appelle, puis le premier qui se fait... Puis on peut même, c'est ça, aller plus loin, puis le premier, on calcule le temps que ça prend avant de se faire accrocher au nez. Fait que le premier qui se fait accrocher au nez, il gagne. Tu comprends? Fait que tu vois-tu comment on change, on joue avec ça pour le... Puis là, après ça, là, quand on appelle, là, les émotions sont beaucoup moins grandes, la réactivité est beaucoup moins grande parce qu'on en a ri, l'autre s'est fait raccrocher au nez. C'est ça qu'on voulait, tu comprends?
Oui, tout ça fait étrangement penser à la technique Marcel Sabourin.
Hey, mais tu sais quoi? Hey, là, la trêve, là, le groupe commence en janvier. Ça te tente-tu?
Oui, je me suis inscrit. Je vous dirais bien quel effet ça fait de se faire raccrocher au nez alors qu'on vient de bégayer le plus possible volontairement, et surtout dans mon cas, de volontairement déranger quelqu'un, ce qui est pire. Mais je le sais malheureusement pas encore. Au moment où je fais le montage de cet épisode-ci, présentement, on n'est pas encore rendu à cette étape-là de la thérapie. L'importance est mise sur l'exposition progressive de nos peurs, évidemment. On ne ferait pas ça à la première rencontre. Mais je devrais l'avoir fait avant que la série soit en ligne, alors gênez-vous pas, la prochaine fois qu'on se voit, de me demander comment ça a été. Si vous pensez que l'idée d'affronter ça est difficile, ou si vous êtes vaguement inquiet à mon sujet, sachez que depuis, j'ai l'impression d'avoir trouvé encore pire. Au travers de mes recherches, j'entends beaucoup parler de l'importance de ne pas cacher son bégaiement, et c'est clair que je le ferais si je pouvais. Mais, comme je disais dans l'intro, j'arrive juste pas à le cacher. J'ai donc pas l'impression de faire ça. À moins que ce fait-là, je me le cache aussi, ça c'est possible. Mais dans ma tête, si j'emploie multiples stratégies, c'est pas pour le cacher, mais uniquement parce que j'haïrais pas ça me rendre au bout de la phrase à un moment donné. Fac, quand je bloque, j'ai deux choix. Soit je stratégise, ou je reste bloqué. Oui, j'aimerais mieux être spontané que d'être constamment en train de gérer consciemment mes moments de bégaiement. Mais il faut bien que je finisse ma phrase. Et c'est là qu'intervient un chercheur dont Geneviève m'avait parlé qui aborde justement ce problème-là.
Puis les recherches de Chris Constantino montrent que ce qui importe le plus dans le bien-être d'une personne, c'est sa spontanéité. Et non pas « est-ce que je suis fluide? » t'sais.
Hello, Michelle.
Hi, Chris.
How are you doing?
Fine, thank you. How about yourself?
Doing great.
Chris, qui est chercheur de l'Université de la Floride, apporte au débat une autre solution, qui est probablement la plus terrifiante que je puisse imaginer.
So the idea here is that if we can learn to let ourselves stutter,
l'idée, c'est d'apprendre à nous laisser bégayer, accepter la présence du bégaiement, éviter moins, réagir moins.
What I call stutterphobic reaction. So
je fais la différence entre ce que j'appelle une réaction bégayophobique. La personne entre en bégaiement, ne veut pas bégayer, déteste ça et recule devant le bégaiement. Et les réactions bégayophiliques. Aller vers le bégaiement, embrasser le bégaiement, de la façon dont on réagirait si on aimait bégayer. Alors à ce moment-là, quand on frappe un moment de bégaiement, on le laisse vivre. On reste avec lui jusqu'à sa fin naturelle. Et on complète le mot.
We're trying to substitute these stutterphobic reactions for these stutterphilic reactions.
Et en essayant de substituer les réactions bégayophobiques par des réactions bégayophiliques, notre bégaiement devient plus facile.
Our stutters become easier.
Mais en plus, il y a un phénomène qui arrive où il semblerait que soudainement, on bégaye moins.
Which is that we tend to stutter less.
Et c'est pas clair pourquoi.
And that's not immediately obvious why that would be.
Mon explication, qui est basée sur la littérature scientifique, mais que je n'ai pas encore prouvée, alors prenez ça avec un grain de sel, c'est que si on laisse aller le bégaiement, notre parole revient au principe procédural, voulant qu'on ne réfléchisse pas pour parler. On bloque moins. Et même quand on bloque, c'est plus facile de s'en sortir. Alors, le but de tout ça, c'est ce que j'appelle la spontanéité. Que notre parole n'ait pas besoin d'attention ou d'effort.
The goal for that type of therapy, I would say, is what I call spontaneity, right? That your speech is not effortful, it's not attention demanding.
And how do you do that?
Et je fais ça comment exactement?
All right, good question. So I think this is much.
C'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. La première étape est ce que j'appelle rejeter la fluidité.
Rejecting fluency. And so, to stutter stutterphilically is to want to stutter.
Bégayer de façon bégayophilique, c'est de vouloir bégayer. Il y a quelque chose d'étrangement fascinant dans l'idée. Et alors que ça va à l'encontre de toutes mes expériences, de toutes les émotions que j'ai pu avoir à propos de ça dans toute ma vie, et même si j'ai aucune idée comment je pourrais en arriver là, c'est comme si soudainement ça se pouvait. Bon, ça y est, j'ai mal à la tête.
Pour laisser que l'esprit soit moins dérangé, perturbé par l'état émotion.
OK, donc vous dites que le traitement va m'aider à ce que mon cerveau fonctionne de façon plus naturelle.
Plus naturelle, plus détendu.
Plus détendu.
Plus détendu, voilà.
Okay. Il y a quelques années, je faisais des tendinites à répétition. Mon bras. Et j'avais essayé pas mal tout ce que la médecine occidentale avait à m'offrir. Puis, un peu en désespoir de cause, j'avais été tout près de chez moi à la clinique d'acupuncture de M. Ta.
Alors là, vous me petit-jeûnez le cou, les oreilles,
voilà.
Le dessous du menton.
Le menton, au-dessus de la tête.
J'ai pas de point de vue quant à la validité des médecines traditionnelles, mais le fait est qu'il m'a tâté le pouls, en a déduit que j'avais un problème de foie, m'a planté des aiguilles un peu partout de façon tout à fait aléatoire, si vous voulez mon avis, et mon mal a disparu une fois pour toutes en quelques jours.
Le pouce, ça, ce sont des points qu'on appelle ça des points de barrière. On enlève la barrière. Donc, là, c'est une fluidité.
À tout hasard, j'ai donc demandé si l'acupuncture pouvait m'aider avec le bégaiement. Il m'a dit oui. J'étais pas sûr qu'on s'était bien compris, mais je me suis quand même retrouvé sur la table de traitement.
Comme les Chinois ont dit, la paronne, le, comment ça s'appelle, la paronne, le bourgeon, c'est venait du bourgeon du cœur, hein, la paronne.
La parole est le bourgeon du cœur.
Donc je vais me planter une aiguille dans le. Ah ben oui.
Ça c'est. Ces effets ont aussi une bonne production au niveau de la sérotonine et effet du détente.
Cette journée-là, et ça fait quelques années déjà, cette journée-là, je devais monter en voiture à Val-d'Or. Et pendant tout le trajet, pendant une journée, j'ai pas bégayé. Enfin, presque pas. Je capotais. J'ai parlé sans arrêt du métropolitain jusqu'à la grosse roue jaune à l'entrée de Val-d'Or, incluant le lunch à Mont-Laurier.
Quand on a des tics dans la parole, on appelle ça le vent, dans le vent interne.
Quand je disais à Dramatique que je serais insupportable si je bégayais pas, je parlais en toute connaissance de cause.
Je me souviens qu'on était en voiture, puis que là, tu me dis... tu remarques rien, tu remarques rien, tu remarques rien. Puis là, je suis... Non, je... Puis là, je regarde tes cheveux, je regarde tes lunettes, je regarde ta barbe, ton linge, ton manteau, je suis comme... Mais... Puis là, tu me dis... Je bégaye pas! Je bégaye pas! Puis là, moi, j'avais vraiment pas remarqué que tu bégayais pas.
Relâcher la rigidité à la base de la langue.
Donc, pour ça, vous me plantez une aiguille sous le menton.
Sous le menton.
Bon. L'effet a été de courte durée. Dès le lendemain, je suis revenu dans mes bonnes vieilles pantoufles de bégaiement, mais encore aujourd'hui, comme présentement, je ressors toujours de chez M. Ta avec une petite couche de plus de calme. Je pense un peu moins. Ce qui n'est pas pour me déplaire ni à moi ni à mon entourage. C'est rien de miraculeux. Mais de toute façon, je crois plus nécessairement aux solutions miracles.
Speech easy, the new device for the study, the study problem, just call now. T'es en train de... C'est pas évident, j'étais prêt à mettre du cash de cette affaire-là, c'était rendu un projet, là.
Ah okay, oui?
Speech easy, j'ai checké les conférences, puis j'ai fait des recherches, puis les gens, les commentaires sur YouTube disaient, ah, c'est pas tellement fiable, je connais quelqu'un qui l'a chaud, puis après un mois, deux mois, ton brain, ton cerveau s'habitue, puis tu te reviens à la case départ, finalement.
Le speech easy, dont Dramatique m'a rappelé l'existence, c'est une réponse aux commentaires que tous les bègues se font entre eux un jour ou l'autre. On envoie des robots sur Mars. Je peux pas croire qu'il n'y a pas encore un gadget pour régler le bégaiement. Ben, il y en a un, si on se fie à ceux pour qui ça fonctionne. Et il semblerait y avoir beaucoup de gens pour qui c'est le cas. Le Speech Easy, c'est un écouteur qu'on se glisse dans une oreille et qui nous empêcherait de bégayer. Oh, que ça demande de la concentration. Ugh. Si je dis ça, c'est que j'en essaye un en ce moment. C'est pas vrai. J'ai pas dépensé de la façon qu'on fait 12 000 personnes aux États-Unis à date, les 2 500 $ en 12 ou 24 versements faciles pour m'en procurer un. Et 2 500, ça, c'est pour le modèle de base. Mais sincèrement, je paierais facilement 100 fois le prix si j'avais l'impression que c'était pour moi. Bref, j'ai pas le véritable appareil avec moi, mais j'ai lu un peu sur la recette technologique qui est derrière ça, et j'ai réalisé que j'avais tous les éléments dans mon logiciel de montage sonore pour reproduire l'effet. Alors, avertissement, l'exercice a pour but de vous démontrer ce que je comprends du principe, et non de vous convaincre que ça fonctionne ou pas. Si ça aide du monde, je suis juste content. On porte donc une oreillette dans laquelle on ajoute notre propre voix, mais avec un léger délai. Comme ceci. Les sites parlent d'un délai entre 50 millisecondes, comme présentement, et 200 millisecondes, comme ce que vous entendez en ce moment. Ensuite, on vient modifier la hauteur de cette voix-là pour faire croire à notre cerveau que la voix vient d'une autre personne. Si j'ai bien compris, c'est tout. Avec quelques exercices suggérés par les spécialistes, on devrait alors ne plus bégayer. L'idée est basée sur ce qu'on appelle l'effet choral, voulant que si on chante dans un groupe ou si on dit un texte tout le monde en même temps, comme dans un chœur grec dans une pièce de théâtre ou comme le solidarité dans votre manifestation préférée, ben, que ce soit impossible de bégayer à cause de l'effet d'entraînement. Okay. Des commentaires que j'ai lus, et c'est ce que Dramatique semble avoir retenu aussi, c'est que pour ceux pour qui ça fonctionne, l'effet serait temporaire. Le temps que notre cerveau s'habitue et qu'il refuse de jouer le jeu. Qu'il réalise que ça se peut juste pas qu'une personne nous accompagne partout et que ça donne que cette personne-là dise exactement la même chose que nous en même temps.
Au travail de réalisateur de documentaires, la première chose que je fais lorsque je réécoute les gens que j'ai interviewés, c'est que j'enlève mes questions. J'enlève du montage tous les endroits où je parle. Et c'est seulement une fois cette purge l'a faite que je peux me concentrer sur mon matériel. Alors, je vous dis pas ce que ça m'a demandé de faire le montage de ce projet-ci où j'apparais mur à mur. Mais ce petit traitement de choc-là, ça concorde tout à fait avec la prescription de Judith à propos de l'importance de la désensibilisation dans le processus.
Après ça, c'est d'essayer de se... Ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de se désensibiliser, de se mettre en situation, de se dire... Un peu comme une phobie, tu sais. J'ai peur des araignées, bien, tranquillement, je m'expose à l'araignée. En premier, je la regarde en photo. Ou j'y pense, en premier, j'ai juste pensé.
De cette fiction signée Patrick Sénécal, réalisée par Michel Montreuil, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour, comment vas-tu, Michel?
Bonjour, André, ça va très bien, merci.
Alors, poussant ma loque, je suis allé retrouver en ligne quelques entrevues que j'ai données à la radio ces dernières années et que j'ose écouter ici pour une première fois.
On a bien réussi ça. On a eu, en fait, beaucoup de plaisir à le faire parce que si...
Des micros spécialisés faits pour ça.
Donc, il n'y a plus de bruiteurs comme à l'époque, la belle époque des radioromans, là.
Non, parce que c'est plus dur de placer un son en post-production.
Réalisé par Michel Montreuil, qui est avec nous. Michel Montreuil, bonjour.
Bonjour. Je tiens à remercier Pidor Roy, Catherine Brunet, Pascal Pussière.
C'est le fun de le penser, en fait.
C'est pas ça du tout.
Ça nous a pris des deux côtés un temps pour se retrouver.
Que gardez-vous de ces moments de tournage?
Ça prend 4 vols et 3 jours pour se rendre là. Un style radiophonique qui a...
Progressivement. Elle le dit progressivement. Oui,